Il s'appelle Aurélien Barreau, il est astrophysicien, professeur à l'université Grenoble-Alpes. Son domaine de recherche concerne tous les mystères de l'univers, des trous noirs à la matière noire, mais son visage est devenu connu du grand public à la faveur de ses prises de position pour l'écologie, en lançant en septembre 2018 avec Juliette Binoche l'appel de 200 personnalités pour sauver la planète. Depuis, Aurélien Barreau est devenu presque malgré lui l'une des figures les plus populaires de l'écologie en France. Les jeunes l'adorent pour ses prises de position, sa rapidité d'esprit et son sens de la formule qui puise dans les références philosophiques. Aurélien Barreau appelle à une révolution plus qu'une transition pour répondre à l'enjeu environnemental. Il est mon invité dans un instant et vous pouvez lui poser toutes vos questions, dialoguer avec lui au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert ensemble dans un instant.
Oui, je vous parle du vélo à Radio France aujourd'hui.
Et ça me parle. Dans la deuxième demi-heure, votre chronique détox très carnivore aujourd'hui, Caroline Tourbe. Bonjour.
Bonjour. Alors, viande ou pas viande, on va en parler. On va essayer de voir aussi s'il existe ou pas un régime idéal, un régime universel qui sauverait la planète et la population.
Vous avez enquêté pour nous sur la question. Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Bertrand Laurentin. C'est le fondateur de Label Abeille qui propose des ruches connectées aux apiculteurs. Et puis enfin, notre invitée découverte est l'auteur Elisabeth Combre qui publie un petit livre « Écologie 40 militants engagés pour la planète » qui sort chez Gallimard Jeunesse. Voilà donc pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï avec à la technique Johanna Gabriel et Florent Beauvallet.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Aurélien Barreau.
Bonjour.
Êtes-vous devenu malgré vous une figure incontournable de l'écologie en France ?
Ah, j'espère que non. Enfin, malgré moi, oui, incontournable, certainement pas. Moi, je crois qu'il faut pas trop incarner cette cause. Au contraire, il faut qu'elle se dissémine, qu'elle diffuse et qu'elle devienne celle de tout un chacun.
Ouais, c'est ce que beaucoup de jeunes, entre autres, revendiquent aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire finalement une organisation horizontale et moins de figures identifiables. Est-ce que c'est pas compliqué justement de défendre des grands sujets lorsque on n'a pas la possibilité d'avoir des références comme ça de personnes?
Probablement, c'est difficile, mais puisque justement tout est à réinventer, commençons par réinventer notre propre organisation. Et en ce qui me concerne, je suis assez ravi, finalement, qu'il n'apparaisse pas de leader identifié, mais que des groupes d'action, de réflexion, des épiphanies, comme ça, d'étrangeté et d'invention, apparaissent un peu partout. Ça me paraît assez réjouissant.
Mmh. Pourtant, vous avez beaucoup défendu Greta Thunberg, sur Facebook en particulier. Elle aurait pu, d'ailleurs, avoir le prix Nobel de la paix aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. Vous auriez réagi comment si le prix lui avait été décerné?
Oui, moi je m'en fiche un peu du prix Nobel. Bon, le prix Nobel, c'est
même
un peu
physique,
la grand-messe. Oui, mais vous savez, moi je le connais, Peebles. Enfin, je veux dire, bon voilà, dans mon domaine en cosmologie, c'est des choses... On connaît les gens qui sont très forts et qui ont contribué. On n'a pas besoin comme ça de cette grande fête. Mais bon, c'est vrai que c'est l'occasion aussi de parler de sujets intéressants. Donc ne crachons pas dans la soupe. Toujours est-il que Greta, c'est une situation qui est complexe. Parce que je pense effectivement que ça serait bien, moi, qu'elle laisse un peu la main, que ça tourne, qu'on voit d'autres gens. Pour autant, évidemment... face à la stupidité, à la bassesse, à l'arrogance, à la violence des attaques dont elle a été victime, il faut la défendre pour une raison simple. D'abord, elle dit la vérité, et ensuite, on ne vous demande pas de l'aimer, on vous demande de l'écouter. Donc tous les gens qui nous disent « Oh, moi, je ne tombe pas dans l'idolâtrie de cette gamine », mais très bien, détestez-la, si vous voulez. Mm-hmm. Mais écoutez ce qu'elle dit, parce que c'est la vérité, et c'est à peu près exactement le consensus scientifique.
C'est la vérité de la science ?
Oui, alors bon, vous
la
savez
science
que...
dit la vérité, Aurélien Barreau.
Ah là, vous me taquinez, parce que vous savez que j'ai effectivement plaidé pour une vision un peu nuancée de cette chose-là. Je crois que sur beaucoup de sujets complexes, la science en effet ne dit pas la vérité. Elle est une proposition parmi d'autres, elle est un guide, elle est un chemin, elle est une posture. Néanmoins, la Terre n'est pas plate. Et là, en effet, le débat serait stérile. Et je crois qu'aujourd'hui, la catastrophe écologique est à peu près au même niveau de certitude que la rotondité de la Terre. Donc on peut effectivement convoquer la nuance sur les sujets complexes, mais ce n'est plus un sujet complexe. Aujourd'hui, c'est une évidence factuelle.
Mais sauf que, est-ce qu'on peut donner des échéances à la population aujourd'hui en disant, attention, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, il va se passer telle chose? Est-ce que la science est en mesure de le faire, ça, aujourd'hui?
La projection est toujours un peu complexe, et c'est pourquoi, en ce qui me concerne, je préfère parler du passé. En fait, ça a déjà eu lieu en grande partie, la catastrophe. Nous avons perdu 60% des vivants en 40 ans. Ça, on ne peut pas se tromper parce que ça a eu lieu. Ce n'est pas une prédiction, c'est un bilan. Et je crois que c'est l'argument massue, en fait. C'est déjà en train de se faire. L'effondrement de la vie sur Terre, la sixième extinction, elle est en cours. Donc, on peut effectivement se tromper de quelques années sur la montée des eaux, sur le dépassement de plus 2 ou plus 3 degrés par rapport aux températures pré-industrielles, mais on ne se trompe pas sur le bilan. Et le bilan est déjà extraordinairement dramatique et alarmant.
Alors, jeudi 21 novembre prochain, vous serez l'un des invités de la première conférence qu'organise France Inter, justement, autour du thème « Demain, notre planète ». Vous serez aux côtés d'Hubert Reeves, de la philosophe Cynthia Fleury, de la juriste Valérie Cabanès sur la scène du studio 104, et puis en duplex, dans 150 salles de cinéma en France. Et le sujet de cette conférence sera « Changer ». Dans votre livre, le dernier, en tout cas le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, sorti chez Michel Lafon, vous écrivez que l'ampleur du désastre est telle que c'est un changement radical qu'il faut provoquer maintenant. Donc, vous parlez même pas de changement. Vous parlez de révolution, vous, aujourd'hui.
Oui, écoutez, je vais dire de façon un peu provocatrice que le problème aujourd'hui par rapport à la pensée écologique, c'est qu'on se trouve face à des gens très radicalisés. Et les gens très radicalisés que j'ai en tête, ce sont évidemment les manias de la finance. Mmh. Ce sont évidemment tous ceux qui veulent qu'on ne change rien à l'état actuel du monde.
Ce sont eux les radicalisés.
Oui, je le dis évidemment avec provocation, parce qu'on pense aux militants d'Extinction Rébellion, ces gens-là, mais aujourd'hui, la véritable radicalité au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire le soutien à la violence, c'est-à-dire finalement le suicide, ce ne sont pas ces gens-là. Ce sont effectivement ceux qui veulent qu'on continue comme si de rien n'était. Le système actuel est ultra violent et mortifère. Donc je crois effectivement qu'on ne peut pas s'en sortir par un petit ajustement. Quand il y a un problème systémique, il faut trouver une solution systémique.
Donc aussi des propositions totalement impopulaires, parce que les décisions, ce sont celles évidemment des hommes politiques, qui doivent oser aller à l'encontre de l'opinion ou pas ?
Oui, c'est un sujet très complexe parce que je ne veux pas non plus tomber dans une sorte de paternalisme arrogant qui voudrait en effet que le philosophe roi décide en lieu et place de la population qu'il est quand même censé représenter. Donc, mon espoir, c'est que nous grandissions suffisamment vite, non pas pour nous autoréguler, ça je pense que c'est impossible, mais pour décider par nous-mêmes de lois de régulation. À l'échelle individuelle, on utilise presque toujours tout l'espace de liberté qui est le nôtre. C'est comme ça. Nous sommes ainsi faits. Mais à l'échelle individuelle, nous sommes également parfois convaincus que certaines limites sont bienvenues. Et nous les décidons et nous les acceptons.
Bah, ça s'appelle la démocratie.
C'est aujourd'hui effectivement le défi.
Oui. Mais ça s'appelle la démocratie, Aurélien Barraud, non?
Oui, mais je n'ai jamais prétendu être contre la démocratie, cher Mathieu.
Oui, mais ça fonctionne pas. Enfin, on voit bien que ça ne fonctionne pas, justement, telle qu'elle existe aujourd'hui.
Précisément, il faut essayer tous azimuts. La convention citoyenne suscite beaucoup de débats. Certains pensent que c'est un peu du washing, qu'elle sera récupérée, mais cette idée quand même de tirer au sort des gens, et par conséquent de s'assurer que dans les recommandations qu'ils émettront, il ne peut pas y avoir d'enjeu carriériste, il ne peut pas y avoir d'enjeu de réélection, c'est intéressant. Je suis un peu fatigué en ce moment de ce déni de toutes les éclosions avant même de voir ce que ça donne. Bon, peut-être que ça va rater, ça va même très probablement rater. Mais enfin, on va essayer. Là, il y a une tentative de démocratie directe avec des règles du jeu différentes, encadrées par quelqu'un que je crois être bienveillant. Voyons, essayons.
Qui ?
Et si ça marchait, Cyril Dion.
Oui. Justement, aujourd'hui, on voit quand même, ça c'est peut-être aussi un des aspects positifs de la situation, c'est qu'il y a une formidable dynamique aussi qui s'enclenche, et une énorme créativité aussi, parce que tout le monde peut y participer. On voit que c'est déjà le cas d'ailleurs. Les politiques sont totalement à la traîne par rapport à ce qui se passe réellement aussi sur le terrain.
Mais les politiques, aujourd'hui, très globalement, et à quelques exceptions près, ne se rendent toujours pas compte. C'est assez incroyable. Ils vivent encore dans un monde où ils pensent qu'effectivement, de petits ajustements vont résoudre le problème. Ça, c'est factuellement, scientifiquement, évidemment faux. Donc en effet, là, les scientifiques ont un les politiques ont un retard considérable qui est pas seulement éthique, qui est pas seulement pragmatique, mais qui est presque idéologique. Ils n'ont pas compris. Je sais pas s'ils ont peur ou s'ils sont un peu stupides, mais toujours est-il qu'ils n'ont pas compris l'ampleur de ce qu'il faut commencer à mettre en place. Et c'est vrai que c'est plutôt rassurant de voir que on essaye parfois de façon contradictoire, et moi ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait enfin un peu de connivence. C'est-à-dire que les gens qui soutiennent une vision assez légale, finalement assez démocratique de type convention citoyenne, ne soient pas les ennemis des gens qui tentent des actions de désobéissance civile comme Extinction Rébellion, parce que tout ça doit être mené en même temps. J'appelle ça de façon peut-être un peu pompeuse un activisme fractal. Je crois qu'il faut essayer à toutes les échelles.
Justement, dans Le Monde aujourd'hui, le chercheur Daniel Bois écrit que la radicalité absolue du mouvement Extinction Rébellion conduit justement ce mouvement probablement à l'impuissance. Et justement, vous parlez de cet activisme fractal. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que ça s'éteigne parce que précisément il n'y a pas de figure forte qui incarne ce mouvement ou qui a un refus même de rencontrer les autorités, les politiques?
Je crois qu'il a doublement tort. D'abord parce que la radicalité en tant que telle n'est pas condamnable. La radicalité, étymologiquement, ça signifie précisément une une attention décuplée sur les origines profondes de ce à quoi on s'oppose et pas seulement une sorte d'agitation superficielle. Donc la radicalité en tant que telle est parfaitement justifiée. Ensuite, je crois que Extinction Rébellion est beaucoup moins radicalisée aujourd'hui que les chefs d'entreprise ou les manias de la finance qui littéralement soutiennent un système qui est en train de nous emmener au suicide. Donc franchement, bloquer un centre commercial, c'est peut-être illégal, mais c'est tout sauf radical par rapport à l'ampleur de la révolution à mener. Il est vrai que ça peut jouer à contre. Il est vrai que ça peut braquer la population. Il y a un risque de dérive dans un sens comme dans l'autre. Mais c'est un peu agaçant qu'on soit toujours trop radicaux pour les uns, pas assez radicaux pour les autres. Maintenant, on essaye, il faut que les forces de vie s'allient.
La révolution, Aurélien Barraud, elle commence par les pailles en plastique et les cotons-tiges, où il faut aller beaucoup plus au-delà.
Oui, c'est certain qu'il faut aller au-delà. Comme nous le disions tout à l'heure, les problèmes systémiques doivent être résolus au niveau systémique. Il y a un problème politique, fondamentalement politique, et non pas scientifique. Néanmoins, je crois que les révolutions au niveau du macrocosme sont toujours accompagnées à minima d'infléchissement, voire d'évolution au niveau du microcosme. Et donc je crois qu'il faut faire les deux.
Aurélien Barraud, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, c'est chez Michel Lafon. Je signale également que vous serez en conférence mardi 22 octobre à 20h. Ce sera au Théâtre de la Madeleine à Paris. Il reste des places pour vous suivre. Ce sera une sorte de stand-up. Vous serez seul sur scène pour parler, j'imagine, de toutes ces questions, entre autres.
Je serai seul sur scène avec quelques petites surprises néanmoins.
Bien, donc on peut réserver. C'est mardi 22 octobre au Théâtre de la Madeleine à Paris.
France Inter. La Terre au carré.
Camille passe au vert et le vendredi c'est écologie à Radio France. Aujourd'hui on enfourche nos vélos, Camille.
Mais oui, je sais Mathieu, vous faites partie de ceux qui viennent en pédalant à la maison de la radio, cheveux au vent et sonnettes tintinabulantes le long de la Seine, mais en Vélib que vous déposez donc à la borne sans trop de problèmes. Parce que d'autres cyclistes propriétaires de leur fidèle destrier à deux roues le garent bien plus à l'arrache, pardonnez-moi l'expression, mais si vous passez en bas de la maison de la radio, vous verrez des dizaines de vélos accrochés à des arbres ou en enfilade le long d'une petite barrière faite à la base pour délimiter le lierre, mais transformée donc en parking.
Est-ce que vous pensez que c'est le bon endroit pour garer votre vélo tous les matins ?
Pas du tout.
Il n'y a pas de garage à vélo.
Et oui, pas de vrai abri. Mon vélo ou celui de Valérie, notre réalisatrice, seul contre une triste barrière du pont de Grenelle, peuvent en témoigner. Et ça pose des problèmes aux cyclistes de Radio France.
Ouais, bah des abris, parce que quand il pleut, on a les fesses trempées.
Il y a deux mois, je me suis fait voler ma selle, là, que j'avais payé 100 euros, donc j'étais bien dégoûté.
Je suis obligée de mettre deux antivols alors qu'il est pourri.
C'est un vrai problème. Parce que c'est un investissement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont choisi, comme moi, de prendre un vélo électrique parce qu'on a environ 20 km à faire par jour aller-retour. C'est vrai que ne serait-ce que d'avoir un abri à vélo pour protéger les rouages, pour protéger les pignons, ça serait effectivement quelque chose d'essentiel.
Alors, il y a une explication à cette absence de garage, et c'est notre Madame Écologie à Radio France qui me l'a donnée, vous savez, Céline Bréden, toujours très franche.
C'est la honte, mais on serait une entreprise lambda avec un bâtiment qui ne serait pas classé. J'aurais aucun problème à vous acheter un abri à vélo sur catalogue, à le poser, et puis voilà, ça serait simple. Maintenant, c'est la maison de la radio.
Ah, le site est classé, entendu. Donc on ne peut pas y faire ce qu'on veut. Aucune construction, par exemple, à moins de 8 mètres de la façade et beaucoup de règles à suivre.
Ils nous font un permis de construire, mais la maison de la radio a déjà un permis de construire. Donc il faut qu'on s'intègre dedans, parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs permis de construire en parallèle. Donc il faut qu'on s'attache au permis de construire de la réhabilitation de la maison de la radio. Et après, il faut qu'on passe devant les architectes des bâtiments de France. Voilà, c'est un processus extrêmement long.
2 ans qu'elle y est, alors que le budget est prévu. Elle n'a pas voulu me dire combien.
On est parti sur des supports en plus double hauteur pour optimiser vraiment, maximiser l'espace et mettre le maximum de vélos possible.
Mais vous n'en verrez donc pas la couleur avant un bail.
Oui,
hein, parce que, en imaginant, chers collègues cyclistes, qu'il y ait un hoquet administratif dès lundi, là, par exemple, eh bien, ça prendrait encore au minimum 3 mois avant le début des moindres travaux parce qu'il faut toute une procédure, les appels d'offres, tout ça. Bref, autant vous dire que le garage cette année, eh bien, c'est dans nos rêves. Quant à s'incruster dans le parking souterrain, pour les voitures, bien sûr, dont celle de la direction, eh bien, il n'appartient plus à Radio France, donc oubliez aussi. Mais, je ne vais pas être de mauvaise foi, il existe une sorte de garage censé être temporaire sur le parvis à l'opposé de la Seine. Une quinzaine de points d'accroche pour les vélos, plus, vous savez, des espèces de sabots dans lesquels vous calez la roue avant, sauf que de ce côté aussi, il y a des râleurs.
Bah non, ça va pas. Il y a quelques places correctes pour garer les vélos, mais pas suffisantes. Les petits anneaux, là, moi je peux pas mettre mon vélo, les roues sont trop épaisses, j'ai pas envie que la roue soit voilée. Donc, puis je pense qu'on devrait avoir une indemnité kilométrique. Enfin, moi je fais que des trajets à vélo, hein, je fais 30 km par jour.
La fameuse indemnité kilométrique dont beaucoup m'ont parlé et qu'effectivement Radio France ne verse pas, ce n'est pas obligatoire. Donc aucun accord d'entreprise n'a été signé pour ça. Et d'après la direction des ressources humaines, ce n'est pas demain la veille. Je vous rappelle qu'on est à sec, dans un contexte difficile. En revanche, message à tous, les abonnements Vélib, Vélo Toulouse, Vélo Bleu à Nice et vous savez à Nantes comment ça s'appelle?
Non, j'ai plus le nom.
Les Biclou Co, ouais. Eh bien, ils doivent être remboursés à 50%. Sur le stationnement, j'ai quand même croisé deux comptes. Temps, côté garage temporaire d'abord.
Moi ça me va pour l'instant, je me gare ici maintenant.
Ok.
Je pense que c'est mieux ici, tu devrais te garer ici.
Chacun son espace. Le côté de la Seine a lui aussi des arguments finalement.
En même temps, toutes ces barrières sont assez pratiques pour se garer, il y a tout le temps de la place.
Voilà, à condition de retrouver son vélo en état à la fin de la journée.
Voilà, Camille passe au vert et c'est à réécouter évidemment sur franceinter.fr.
Aurélien Barraud, vous, pour vous déplacer, je crois avoir lu que vous avez renoncé à votre voiture de sport.
Ah oui, la voiture de sport d'Aurélien Barraud qui est devenue...
Qui est devenue mythique, oui. Mais j'ai renoncé à une voiture tout court d'ailleurs, je n'ai plus du tout de voiture maintenant. Je l'utilisais très peu de toute façon, donc ça ne me coûte pas grand-chose. J'utilise uniquement les transports en commun et mes petites jambes. Après, faut être nuancé, Je suis tout à fait conscient que je peux me permettre de me déplacer de cette manière parce que j'habite au centre-ville et que bien évidemment, pour les gens qui habitent loin des centres-villes, les choses sont plus compliquées. Et c'est la raison pour laquelle la préoccupation écologique doit aussi être sociale, sans quoi l'antagonisme mène bien sûr à des situations qui sont intenables.
Vous avez des abris à vélo à l'université de Grenoble, j'imagine.
Oui. Le laboratoire et l'université sont assez bien équipés.
Aurélien Barraud, l'invité de la Terre au Carré, vous dialoguez avec lui au 01 45 24 7000, également sur les réseaux sociaux franceinter.fr. Le temps d'écouter L'Homme Pâle avec évidemment Bon Après-Midi avec la Terre au Carré.
Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi? Pourquoi je serais différent des autres? Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça, j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de vin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh, j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard morceau. Sauf que maintenant, j'ai plus 19 ans, et je crois bien que les gens bizarres du showbiz disent que mes disques se vendent. Yes, concert complet dans toutes les villes de France. On était déjà passé par là en vanne. Sur scène, je donne tout, j'en ai 2000 devant. Mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan.
Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. Seul à 3 heures du mat, dans un bar on peut reconnaître pâle. Sous ma poitrine c'est plus froid qu'en Islande. Dans mon caleçon c'est plus chaud qu'au Népal. Je fais que déconner, pardon. Chaque semaine je couche avec une nouvelle fille que je connais pas. Est-ce que j'essaie de me venger? Me venger de toutes ces années où je plaisais moins aux filles que les mecs dérangés. Où je me sentais partout étranger. Où je servais qu'à nourrir leur ego quand c'est pétasse. Ouais, aujourd'hui c'est moi qui monte les étages, ouais. Bon d'accord, j'étais consentant quand je rentrais dans leur spirale. C'était toujours mieux que d'être invisible. Maintenant je ressens plus rien, je m'intéresse plus qu'à leur physique. Et tous les soirs le diable me rend visite. Fini les grosses gars, trop fausses gamins, j'étais tellement bête. Je veux un Oscar pour chaque film que je me suis fait dans la tête. Merde, avant j'étais un peu froid, maintenant je le suis complètement. C'est trop tard pour combler le manque.
Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant?
Sert plus à rien de m'aimer maintenant. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'air. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant, ouais. Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant.
France Inter, la Terre au carré.
Et Aurélien Barraud, notre invité cet après-midi, vous êtes nombreux au standard à vouloir dialoguer avec lui, nous recevons également vos messages. Donc Aurélien Barraud, on va tout de suite accueillir Jean-Marc qui est en ligne avec nous. Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour.
Merci d'être là. On écoute votre question pour Aurélien Barreau.
Oui, alors, bonjour Aurélien.
Bonjour.
Je voulais savoir si vous aviez entendu parler des rencontres éco-citoyennes châtre-renardaises des 28 et 29 octobre, et si vous êtes prêt à les relayer, puisqu'en fait, on va réunir de nombreux collectifs citoyens qui veulent s'engager sur les municipales, soit par des listes, soit par des propositions sur les futurs candidats. Et il va y avoir également des conférences sur l'écologie, l'agriculture, la place du citoyen et des rencontres avec des élus régionaux de PACA et locaux de Château-Renard en Provence.
Bon.
Voilà, et c'est organisé par le mouvement des transmetteurs unis français.
On vous demande de faire la promo, Aurélien Barreau.
Oui, écoutez, je le ferai de bon cœur. Bon, en ayant quand même vérifié que ça allait dans le sens que j'appelle de mes voeux, mais je crois qu'il faut effectivement procéder tous azimuts et donc votre initiative est très certainement fort bienvenue.
Romain sur l'application France Inter nous dit: que pensez-vous de la désobéissance civile? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Quels autres modes d'action est-ce que vous préconisez, Aurélien Barreau?
Oui, la désobéissance civile a été très bien théorisée par le philosophe Jürgen Habermas. C'est quelque chose de très intéressant, de très fondamental quand on considère qu'un intérêt plus important que la loi est en jeu, et peut-être que la vie est plus importante que la loi, et donc je crois effectivement que c'est une piste à creuser. Moi, je préconise tous les modes d'action, dans une certaine limite, naturellement, on peut imaginer des choses inacceptables. Mais dans les limites du raisonnable, je crois qu'il est très important de ne pas choisir. C'est un peu le problème, vous savez, des gens très engagés, chacun a une analyse, a trouvé la bonne manière de faire, il faut sortir de ça. Il y a une infinité de bonnes manières de faire, parce que de toute façon, on fait véritablement face à un hydre, qui est l'hydre effectivement financier et capitaliste destructeur de la planète, et pour combattre ce monstre, il va falloir être fort.
Est-ce que la non-violence est au cœur de votre réflexion là-dessus?
Pas forcément, ça m'agace un peu en fait sur l'équilibre de non-violence, parce que finalement le système actuel est ultra-violent. Donc si on est pour la non-violence, on est pour détruire le système actuel. Donc c'est un peu un mantra comme ça qui revient tout le temps, mais bon, il ne faut pas en abuser.
Denis est en ligne avec nous de l'Oise. Bonjour Denis.
Oui, bonjour à tous.
Merci d'être là.
Je me permets de noter quelques contradictions dans la pensée et l'analyse de votre invité. Si vous me permettez de...
Ben allez-y, on vous écoute.
D'accord. Donc, les physiciens des particules et astrophysiciens utilisent des machines qui consomment une quantité incroyable de métaux rares et d'énergie. Télescopes géants, accélérateurs et détecteurs de particules, satellites et sondes astronomiques. La seule facture d'électricité du sol CERN est astronomique, 1300 milliards de watts-heure par an. Donc, il y a quand même comme une contradiction entre les vœux pieux de votre invité et la réalité, qui fait que si il veut vraiment réellement changer les choses, il devrait changer de métier d'abord.
Alors, Aurélien Barreau, est-ce que c'est des questions que vous vous posez, ça?
Alors, c'est une très bonne question, mais j'aurais une réponse radicale. Pas du tout. Vous n'avez pas du tout compris notre combat. D'abord, personnellement, je suis théoricien, donc je n'utilise pas de machine. Mais c'est pas vraiment le problème. C'est très exactement parce que nous sommes tous en proie à des contradictions que j'appelle à des régulations qui sont à un méta-niveau. On ne peut pas échapper à ce genre de choses. Et précisément, et c'est pourquoi je répète tout le temps que l'action individuelle ne suffit pas, qu'elle ne peut pas suffire et que le problème est systémique. Et si on considère que les accélérateurs de particules ont un budget énergétique trop important dans l'ensemble des activités nationales, eh ben il faut les interdire ou les limiter. Mais c'est pas aux physiciens individuellement de prendre cette décision. Ça ne marche jamais comme ça. Et c'est par cohérence précisément, et non pas par incohérence, que j'appelle à des mesures légales, parce que l'initiative individuelle n'est jamais la solution. Elle ne peut pas l'être dans cette situation.
Écrire un livre aussi, c'est une question que vous êtes
posée
aujourd'hui.
Mais bien sûr, je l'ai écrit dans la préface. L'objet matériel lui-même contribue à la pollution qu'il entend dénoncer. C'est une question de balance bénéfice-risque. Vous savez, comme avec les médecins, il faut essayer de trouver le meilleur ajustement. J'ai fermé mon compte Twitter, parce que je le trouve insupportable et globalement négatif. C'est un lieu de non-pensée. J'ai gardé mon compte Facebook, parce que là, j'essaye de diffuser quelques idées. Je ne sais pas si c'est le bon choix.
Question de Paul sur Twitter, justement. Vous touchez beaucoup de gens avec vos vidéos sur YouTube. Ne pourriez-vous pas promouvoir des alternatives? Parce que pour vous écouter, je dois regarder des pubs pour une marque de viande, nous dit-il. Il parle d'une alternative qui s'appellerait DTube.
Oui, c'est très drôle. Ça rassure un peu quand même. On n'est pas encore complètement dans la société de contrôle, parce que quand je regarde ce que les algorithmes ciblés me proposent comme objet, c'est presque toujours ce que je déteste.
C'est ça, la viande.
Donc voilà, on propose de la viande, on propose plein de choses qui sont le contraire de mon univers. Donc ça, c'est plutôt drôle. Mais je pense que la remarque remarque est très bonne. Je suis naturellement favorable aux plateformes alternatives, mais là encore, c'est une question de balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que c'est très bien de quitter Facebook ou de quitter YouTube, mais si du coup vous ne parlez plus à personne et que votre message n'est strictement plus relayé, vous perdez aussi votre capacité d'action et votre pouvoir de transformation, voire de révolution. Donc on est en permanence en train de slalomer avec des contraintes qui sont mutuellement exclusives. Je ne suis absolument pas certain de mettre le curseur au bon endroit.
Mais vous touchez des droits par rapport aux publicités normalement qui
sont
diffusées
sur YouTube? Ah non, bien sûr que non.
Vous touchez rien. Attends,
tout ce que j'ai mis sur YouTube est entièrement gratuit naturellement.
Joël est en ligne. Bonjour Joël.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Bonjour, bonjour messieurs.
Et madame.
Merci.
Il y a Camille Cronier quand même.
Allô, allô.
Oui, Joël. On voulait juste vous dire qu'il y avait aussi une dame au micro, mais c'est tout.
Ah oui, donc il y a une erreur, non, c'est pas. J'attends ou
vous... Non, non, on vous écoute.
Vous êtes bien à l'antenne en direct, on vous entend.
Ah, vous êtes très gentil.
Allez-y, on écoute votre question.
J'ai une suggestion à monsieur Barrault tout à l'heure qui parlait d'une révolution. Et donc la révolution, il faut la faire, mais on ne pourra jamais la faire tant que le pilote de Titanic ne sera pas au courant qu'on est dans une catastrophe. Tout à l'heure, il a dit autre chose, il a dit les hommes politiques, il y en a très peu qui ont conscience du problème. Nous, on s'en est rendu compte parce qu'on est un petit groupe et on a fait un travail il y a un an en interrogeant les hommes politiques par téléphone. On leur a dit il faut que vous vous formiez à la question environnementale parce que vous n'êtes au courant de rien et c'est pour ça que vous prenez pas les bonnes décisions. Ça les a énervés. Ils sont devenus complètement fous au téléphone parce qu'on les touchait au plus profond d'eux-mêmes. Ils ont dit, attendez, vous croyez, on traite des sujets, on travaille avec des gens très pointus, on est conscient de la situation. On leur a dit non, et on peut vous le prouver. Et comme il y a la testostérone qui intervient dans une discussion avec un homme, le gars nous a dit, allez-y. On en a eu 10 comme ça. Eh bien, on leur a posé des questions simples. Avez-vous déjà vu les courbes d'émissions de CO2? Avez-vous déjà vu la courbe de teneur en CO2 atmosphérique? Savez-vous à peu près à quelle échéance on pourrait avoir des soucis au niveau des ressources en eau, etc. Mm-hmm. On a posé quelques questions, le GIEC, enfin des questions assez basiques pour la question environnementale. 0/20. 0/20 ou des questions extrêmement approximatives. Mmh. Et donc je demandais à M. Barrault, est-ce que justement par rapport à sa révolution, est-ce que vu le groupe avec lequel il travaille, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un message, un unique message qui pourrait être passé pour qu'on arrive à passer de la case à la case révolution, c'est de dire d'exiger que toutes nos élites reçoivent obligatoirement une formation avant de rentrer à leur poste. Mmh. Que ce soit les grands chefs d'entreprise, que ce soit les députés, les maires, une formation qui soit au courant de c'est quoi les courbes de CO2, à quelle vitesse on va.
Allez, Aurélien Barrault, vous répondez à Joël.
Oui. Une parlementaire que je ne citerai pas, bien sûr, me disait récemment que le plus gros problème, c'est pas l'idéologie, c'est l'incompétence des gouvernants sur cette question. Donc, naturellement, je suis tout à fait favorable à ce que vous dites. Bon, exiger, c'est un peu compliqué quand même, parce que exiger l'accès au savoir, oui, mais à quel savoir? Celui-là est essentiel, beaucoup d'autres le sont aussi. En tous les cas, que nous n'accordions plus notre confiance à des gens qui n'ont pas ce savoir et qui n'en font pas la priorité, ça me paraît en effet être la moindre des choses.
Merci Joël pour votre intervention. Louise, bonjour, vous êtes en ligne et nous vous écoutons. Bienvenue.
Oui, bonjour. Moi, je vous appelle. Alors, j'adore Aurélien Barrault et tous les petits jeunes qui sont autour de moi aussi. J'ai une question. Je suis ingénieure dans une collectivité locale et en fait, le gros problème qu'on rencontre, parce qu'on est quand même beaucoup à avoir conscience de ce qui se passe, c'est le fait que les élus n'ont pas envie d'avancer sur ces sujets parce qu'ils ont trop peur de faire peur à la population, parce que c'est quand même très bouleversant. Et du coup, ils font un peu l'autruche, en fait. Et on ne sait pas trop comment prendre les choses, sachant qu'on sait très bien que c'est dans les collectivités locales qu'il y a des gros enjeux sur les mutations à venir. Mmh. Est-ce que vous me conseilleriez ?
Aurélien Barrault,
oui, c'est le problème bien connu. Vous savez ce que disait Confucius, hein. Quoi que vous fassiez, vous avez contre vous ceux qui veulent faire la même chose, ceux qui veulent faire le contraire, et la grande majorité de ceux qui ne veulent rien faire du tout. Donc, dans tous les cas, on perd quand on veut un changement, parce que l'inertie est gigantesque. Moi, écoutez, je crois qu'il faut travailler sans relâche, effectivement, à l'éducation. Parfois, il faut peut-être faire des coups d'éclat, parce que c'est nécessaire, et effectivement, ça permet de médiatiser l'ampleur de la catastrophe. J'ai pas de solution miracle, sinon je l'aurais est mise en œuvre dans mon environnement. Je crois qu'il faut qu'on se batte chacun avec nos armes.
Hugo demande sur franceinter.fr comment concilier la conscience tragique du désastre qui nous pousse à agir et la nécessité impérieuse de poésie pour que l'existence soit soutenable. C'est bien ça pour terminer.
Je vais publier dans quelques jours dans Libération un petit article que j'ai intitulé « Résistance poétique ». Je crois que finalement il y a là un levier fondamental parce que on est complètement prisonnier de notre langage. Vous voyez, si au lieu de parler de croissance, on parlait de prédation mortifère, on aurait peut-être un ressenti différent. Et donc la question est poétique.
On se retrouve le 21 novembre donc avec cette première conférence France Inter Demain Notre Planète avec Hubert Reeves, Cynthia Fleury et Valérie Cabanès. Et donc vous serez sur la scène du 104 et dans 150 salles de cinéma en France. Aurélien Barraud, on peut réserver actuellement sur franceinter.fr. Et puis également cette autre conférence, ce sera le 22 octobre au Théâtre de la Madeleine. Merci beaucoup à vous d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré. Faut-il manger de la viande? Faut-il se passer totalement de viande? Ce sera le thème de la chronique détox de Caroline Tourbe.
France Inter, la Terre au Carré.
Au menu de cette deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Bertrand Laurentin, c'est le fondateur de Label Abeille qui propose des ruches connectées aux apiculteurs. Et puis enfin notre invité découverte est l'auteur Elisabeth Combre qui publie un petit livre Écologie, 40 militants engagés pour la planète chez Gallimard Jeunesse. Mais pour le moment, Caroline Tourbe, c'est l'heure comme tous les vendredis de votre chronique détox avec une question. Faut-il se passer totalement de viande?
Oui, le faut-il. Alors, il existe déjà des initiatives qui visent à diminuer notre consommation. On peut citer par exemple le lundi vert qui consiste à se passer de viande le premier jour de la semaine. Et vous en parliez dans l'émission.
Lundi dernier, évidemment.
Voilà. Et il y a quelques jours aussi, c'est un collectif de chercheurs qui a publié une tribune dans le journal Le Monde pour appeler les maires à réduire la consommation de viande dans les cantines publiques. Pourtant, vous l'aurez remarqué, Mathieu, le débat reste toujours vif lorsque vous abordez le sujet autour d'une table viande, pas viande. La discussion peut rapidement s'enflammer en famille, entre amis. Pourquoi? Notamment parce que il y a des chiffres contradictoires qui continuent de circuler autour des effets de la viande sur le climat ou sur l'équilibre nutritionnel mondial. Certains minimisent, d'autres dramatisent le poids de l'élevage. Voilà pourquoi, je vous propose de nous faire une petite détox sur le sujet.
Alors, premier point à propos du climat, Caroline.
Oui, je voulais revenir sur une fausse information que l'on entend encore très souvent.
Une question, quelle est d'après vous la première cause de réchauffement climatique dans le monde? Vous allez sans doute spontanément répondre ceci, le trafic, les transports. Et pourtant, la réponse la voici, c'est l'élevage intensif de bétail. Ce sont les Nations Unies qui le disent.
Alors comme ça, ce serait l'élevage qui contribuerait plus au réchauffement de la planète que les transports. Non, c'est faux. Alors il faut savoir que ça arrive quand on compare des chiffres incomparables. L'explication, c'est que selon l'Organisation Mondiale de l'Alimentation, la FAO, plus de 14,5% des émissions mondiales des gaz à effet de serre proviennent de l'élevage. Mais il ne faut pas le comparer aux 14% d'émissions liées au transport indiquées, eux, dans le rapport du GIEC. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, la FAO analyse l'ensemble du cycle. Elle prend en compte le changement d'usage des sols, l'alimentation, les divers transports nécessaires. Tandis que de l'autre côté, le GIEC ne comptabilise que les émissions directes par secteur. Pour le GIEC, la part de l'agriculture se situe autour de 12%. Donc au final, c'est un peu moins que les transports. Et en France, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, il est possible de comparer les quantités directes de gaz grâce à l'inventaire réalisé par le CITEPA. C'est un centre d'études spécialisé. Ça donne presque 30% pour les transports contre 19% pour l'agriculture en France, avec environ la moitié rien que pour l'élevage. Tout de même, sachant que ces mesures ne concernent pas les importations, uniquement les quantités de gaz émises sur le territoire français.
Alors, il se passe quoi, Caroline, si toute la population mondiale devient végane?
Alors là, adieu, veaux, vaches, cochons. Et c'est vrai, ça, qu'est-ce qui se passe si tous nos petits amis, qu'on entend ici, là, disparaissent de nos assiettes? Eh bien, selon une récente simulation conduite à l'université Johns Hopkins, eh bien, le résultat serait net et sans bavure. Si les humains poussent le curseur jusqu'à se passer totalement des protéines animales, eh bien, on obtient une baisse record de moins 70% des émissions de carbone liées à l'alimentation. Quant à la consommation d'eau, elle serait diminuée d'environ 20%.
Donc c'est énorme, et pourtant cette étude ne conclut pas qu'il faut abandonner la viande et les protéines animales.
Et non, pas plus que le GIEC d'ailleurs. Le groupe d'experts dit très clairement que la viande, et en particulier la viande de ruminant, bœuf et agneau, est l'aliment avec le plus d'effets sur l'environnement, mais il ne dit pas qu'il faut totalement abandonner la viande et les protéines animales. Ça dépend de l'état nutritionnel des populations.
Donc il n'y a pas un seul régime idéal.
Et non, l'équipe de l'université Johns Hopkins, dont je vous parlais tout à l'heure, a essayé de le trouver en comparant dans 139 pays différents l'empreinte environnementale de 9 régimes, qui allaient du totalement végétalien à celui qui inclut de la viande 6 jours sur 7. Et le résultat, il est nuancé. Il n'y a pas vraiment de réponse universelle lorsqu'il s'agit de nourrir la planète et de sauver le climat. Mais on pourrait résumer ainsi leur modélisation. Dans certains pays ou pour certaines personnes vulnérables, il faut vraiment augmenter l'apport de viande ou de protéines animales. En revanche, dans les pays développés, comme la France, il faut bien le diminuer, diminuer cette consommation. Et étonnamment, ce n'est pas du tout le régime végétarien qui l'emporte au final.
Alors, surtout dans pratiquement tous les pays étudiés, deux régimes ont particulièrement retenu l'attention des chercheurs.
Exactement. Le premier, c'est un régime qu'on peut qualifier de aux deux tiers végétalien, défini par deux repas végétaliens, donc zéro protéine animale, et un repas omnivore, donc avec un peu de viande. Ce régime-là, il fait mieux que le 100% végétarien. Pourquoi ? Parce que les végétariens ont tendance à compenser l'absence de viande par des produits laitiers, ce qui alourdit considérablement leur empreinte sur le climat. Et l'autre régime, particulièrement intéressant selon les chercheurs, inclut lui aussi des produits animaux, mais attention, pas n'importe lesquels, uniquement des petits poissons, genre sardines, harengs, des mollusques et des insectes. Ces aliments présentent un double avantage, ils sont situés à la base de la chaîne alimentaire et donc leur empreinte environnementale est relativement faible, mais ils ont aussi des qualités nutritives indéniables.
Ah oui.
Bref, miam miam.
Ben, bon appétit, merci beaucoup Caroline Tourbe. Cette chronique détox est à réécouter sur franceinter.fr. La semaine prochaine dans la Terre au Carré, nous vous emmènerons à Marseille pour une nouvelle série de reportages signée Maud de Carpentier. On s'intéressera avec elle aux richesses de la Méditerranée mais aussi aux dangers qui la menacent. Lundi, nous irons dans le parc national des Calanques où la police maritime part à la chasse aux braconniers. Extrait de ce reportage.
On quitte la base nautique du Roucas Blanc, direction le parc des Calanques.
On se trouve au Cap Croisette, face au port des Goudes, qui est l'entrée des Calanques de Marseille vers Cassis, en fait, tout simplement, et l'entrée du parc national. On a établi alors des ZNP dans le parc, qui sont des petites zones qui sont à plusieurs endroits du parc.
ZNP, ça veut dire ?
Zone de non-prélèvement. Donc c'est pas de pêche, mais pas d'algues, pas de pierres, rien quoi. On ne prélève rien.
Il y a des espèces qu'on trouve que dans ces zones protégées ?
Il y a un moratoire qui est toujours en place pour le mérou, ainsi que le corbe, qui sont des espèces qui étaient devenues rarissimes parce que beaucoup pêchées. Et je peux vous dire que pour les mérous, ils sont bien revenus. Hein.
Et donc dans ces zones-là, vous contrôlez quoi ?
Les captures. Vous allez avoir un certain nombre de captures qui vont être autorisées. Et en ce qui concerne la pêche de loisirs, vous avez certaines espèces, le chapon par exemple, où on vous demande de couper la queue. C'est pour éviter que les particuliers fassent du commerce avec leurs prises tout simplement et aillent les vendre au restaurant. Après, il y aura toujours des gens qui seront plus intéressés par le profit que par la nature.
Voilà un avant-goût de ce que vous entendrez la semaine prochaine dans les reportages de la Terre au Carré autour de la Méditerranée.
France Inter. La Terre au Carré. Vos solutions pour la planète.
Bonjour Bertrand Laurentin.
Bonjour Mathieu Vidard.
Bienvenue, vous êtes à Orléans Bertrand et on parle avec vous de ruches connectées. Vous êtes vous-même apiculteur, hein, c'est ça ?
Tout à fait, apiculteur en région centre.
Alors est-ce que les nouvelles technologies vont pouvoir sauver les abeilles et nous donner un peu plus de miel ? Parce que je crois que les résultats encore cette année sont loin d'être très très bons. Hein.
Oui, et puis au-delà des résultats de cette année, la problématique qui touche l'environnement aujourd'hui, l'impact de ces problématiques sur le sort des abeilles, personne ne peut l'ignorer, notamment avec votre belle vidéo que vous aviez fait l'année dernière, « Putain, mes abeilles ». C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution. En tout cas, nous, notre solution, c'est de proposer une innovation technologique pour aider les abeilles et les apiculteurs.
Alors, ça ressemble à quoi, Bertrand, une ruche connectée ? C'est un ordinateur avec des abeilles dedans ? C'est quoi ?
Alors, chez la belle abeille, on a fait un objet qui a une forme d'abeille d'une couleur jaune et noire qui contient des capteurs de poids, de température, d'humidité, de pression atmosphérique, tout un tas d'informations qui permettent d'aider l'apiculteur en temps réel depuis une application mobile et une application web en fonction s'il est en déplacement ou s'il est chez lui. Il suffit de poser la ruche sur notre système pour connecter n'importe quelle ruche.
Et alors vous avez quoi comme information grâce à vos capteurs ?
On va géolocaliser la ruche dans son environnement, on va mesurer la température, l'humidité, la pression atmosphérique. On va bientôt sortir une nouveauté, c'est-à-dire la vibration et le bruit émis par la colonie des abeilles pour prévenir de certains problèmes ou de bonnes nouvelles, par exemple une récolte à travers le poids, par exemple.
Alors ça veut dire, Bertrand, que n'importe quel apiculteur peut vous appeler et vous demander de venir poser des capteurs dans ses ruches à lui ?
Il se procure une base connectée et il pose ses ruches sur notre système. Mmh. Rien dans les ruches, c'est super simple, il suffit de poser la ruche dessus.
Alors quel recul vous avez par rapport à cette expérience ? Est-ce que ça permet réellement de pouvoir éviter l'effondrement de ces populations d'insectes et puis évidemment, en bout de course, d'avoir un peu plus de miel ou pas ?
Avec 4 années de recul depuis la création de l'entreprise, on a atteint des résultats qui montrent jusqu'à 40% de gains en productivité pour les apiculteurs qui sont connectés, mmh. qui reçoivent une information en temps réel et de là, ils peuvent réaliser un diagnostic, se déplacer si c'est nécessaire. Donc, il y a également une économie jusqu'à 40% de leur temps et de leurs frais de déplacement, ce qui est conséquent. Donc, l'investissement pour eux est largement amorti en une année. Mais le but, c'est bien de réduire la mortalité de ces abeilles en allant leur apporter des soins le plus rapidement possible.
Donc, vous dites la 40%, c'est vraiment la réduction de la mortalité que vous avez observée ?
On a obtenu des résultats jusqu'à 40%, oui. Mmh.
Comment l'accueil de ces ruches connectées, il s'est fait comment avec les apiculteurs ? Parce qu'a priori, l'apiculture n'a absolument rien à voir avec les nouvelles technologies. Les apiculteurs sont plutôt contents ?
La nouveauté est difficile à intégrer dans tous les domaines, je crois, mais y a des jeunes qui arrivent de plus en plus. On a aussi une ancienne génération qui laisse petit à petit la place, mais qui est composée de certaines personnes qui sont friandes de nouvelles technologies. Donc, on est plutôt bien accueilli par le marché, mais après, il faut un certain temps pour faire sa place. Il y a également beaucoup de concurrents qui mettent en place d'acteurs qui mettent en place des balances, des systèmes plus ou moins complets, plus ou moins fiables. Donc, le marché est un peu perturbé et le temps qu'on puisse montrer notre qualité de service. Je pense que les utilisateurs qui nous ont utilisés, si je peux dire, exploités, sont satisfaits. En tout cas, c'est les retours que l'on a.
Bon, vous parlez vraiment comme un entrepreneur hein, de business autour de ces ruches, mais il y a quand même un savoir-faire qui est très important et qui est quasiment ancestral hein, chez les apiculteurs. Certains s'y mettent quand même facilement.
À l'apiculture ou aux ruches connectées ?
Aux ruches connectées.
Ben, on va pas en fait remplacer l'apiculteur, hein. C'est en rien notre prétention. Le but c'est de l'aider dans son diagnostic, dans son quotidien. Donc on a intégré en fait un énorme savoir-faire dans nos outils de machine learning, d'intelligence artificielle, de manière à donner des conseils et des préconisations en fonction des données qui sont collectées par les ruches connectées. Mmh. Et ces données, on les croise entre elles pour essayer de générer de nouvelles informations, notamment avec le CNRS de Toulouse et un grand acteur, un géant du software.
Bertrand, ça coûte combien une ruche connectée ?
Notre technologie coûte 640 euros hors taxes et derrière il y a un système de forfait qui permet de bénéficier des services, de stocker vos données et tous les conseils. Il n'y a pas de surprise, tout est intégré pour ce coût mensuel que vous activez quand vous le souhaitez.
Et alors l'apiculteur, il reçoit par exemple concrètement des informations tous les jours, des alertes sur son smartphone pour lui donner l'état de la ruche et voir les anomalies observées ou pas ?
Exactement, et il peut piloter à distance depuis son applicatif le nombre d'informations qu'il veut par jour, les réveils du système électronique, les seuils d'alerte, acquitter ses alertes, gérer sa tournée pour optimiser justement ses déplacements et de là optimiser sa gestion.
Vous avez combien de ruches, vous, Bertrand, à titre personnel ?
J'en ai quelques-unes. Je gère surtout celles d'entreprises qui parrainent des ruches ou qui connectent leurs ruches dans leur démarche de responsabilité sociétale. Et c'est là vraiment que, en plus d'une technologie, on va avoir un modèle économique innovant en tant que start-up, c'est qu'on essaye de sensibiliser les salariés, les clients des entreprises, leurs fournisseurs à la biodiversité, à l'équilibre sur lequel reposent les abeilles, en protégeant les abeilles et les pollinisateurs, notamment à travers les données issus de leurs ruches.
Donc ça veut dire que les grandes entreprises, ou les entreprises d'ailleurs, tout court, peuvent participer au sauvetage des abeilles en passant par vous ?
Exactement, on a des collectivités, différents acteurs en France et en Europe qui nous ont rejoints, et le but maintenant c'est de grandir là-dessus, donc je passe un message, s'il y a des investisseurs qui sont à l'écoute ou des personnes qui souhaitent s'associer à nous, on est maintenant mature pour passer un nouveau cap commercial.
Merci beaucoup Bertrand. Ça s'appelle donc l'abeille, label-abeille.org et le site est en lien sur La Terre au Carré. Merci beaucoup. Si vous aussi, de votre côté, vous avez des initiatives dont vous souhaitez nous parler, eh bien n'hésitez pas bien sûr. On attend toutes vos idées sur le site de l'émission franceinter.fr et la page de l'émission.
All my friends are writing their resumes. My responsible friends are applying for jobs. But me, I was considering ditching Ezra and going by Esme. Baby, would you find that so odd? My dying friends are finding religion, while my intellectual friends are all denying God. But me, I got just one ambition. I sit around all day wishing that the real
Wanna be your girlfriend. C'était Ezra Furman.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard.
Bonjour Elisabeth Combre.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes en duplex des bureaux de Radio France à Lyon pour nous parler de ce petit livre que vous signez, Écologie, 40 militants engagés pour la planète chez Gallimard Jeunesse, avec les dessins de Véronique Joffre. Ce sont donc des écrivains, des mères de famille, des scientifiques, philosophes, politiques, paysans, chacun à leur manière. Donc ces hommes et ces femmes ont engagé un combat pour préserver la nature et l'on va de Henri David Thoreau à Greta Thunberg, décidément incontournable. En tant qu'auteur jeunesse, vous Elisabeth Combre, vous aviez envie d'écrire quoi sur ce sujet de l'environnement à travers ces figures ?
Alors, le projet, il est parti... En fait, au départ, moi, j'avais... Il y a exactement un an, il y avait eu un appel des 700 scientifiques qui appelait les décideurs à s'engager, à agir pour le climat. Mmh. Et il y avait une liste fantastique derrière, donc les 700 chercheurs. Et en la lisant, je me suis dit, enfin en la parcourant, j'ai pas tout lu, mais je me suis dit, là, il doit y avoir de fantastiques idées pour avancer. Et j'avais cette envie de leur poser des questions. Et puis, ça a croisé une autre envie que j'avais de renouer avec l'écriture jeunesse, justement du documentaire jeunesse, hein, pendant 10 ans, avec l'équipe de Thomas D'Artiche et Gallimard Jeunesse, et en coécriture avec Florence Tinard. J'ai fait beaucoup de ce qu'on appelait du décryptage de l'actualité. Mmh. Et notamment sur des sujets sur l'écologie et la défense de la nature. Et donc je suis allée le voir. Et puis de discussion en discussion, il m'a proposé ce livre qui fait partie d'une collection. Il y a d'autres BAM, c'est le nom de la collection. Et mmh. il m'a dit pourquoi pas tenter un BAM écologie.
Ouais.
Donc l'idée c'était de retracer. L'idée c'est de mettre 40 militants engagés pour la planète, 40. Au début, on s'est dit, est-ce qu'il y en aura assez? Bien sûr, il y en a même tellement trop. Il a fallu faire un choix très serré. Et ce choix, je voulais dire dans ce livre, à la fois raconter l'histoire de ce qui est en train de se faire, qui est récente, l'histoire de l'écologie, de l'engagement écologique autour de l'écologie, raconter aussi les lieux et les milieux où se créent ces combats, enfin où se développent ces combats, où sont ces militants, montrer la diversité des manières d'agir. Enfin, il y avait des tas de critères croisés comme ça, raconter mm-hmm. aussi des parcours de vie.
Et il s'adresse aux enfants de quel âge votre livre, Elisabeth Combre?
Sur le site de Gallimard Jeunesse, c'est 10-15 ans. Je pense que ça peut se lire après aussi.
Mmh. Il y avait toute une charte graphique, hein, d'ailleurs, parce qu'il est vraiment oui. bien fait. Il y a deux oui. pages pour oui. chaque militant, avec un portrait dessiné, on le disait tout à l'heure, par Véronique Joffre, et puis oui. la biographie qu'on retrouve sur ces deux pages. Hein.
Oui, donc il fallait rentrer dans un cadre préétabli. Ça a été un joli défi.
Ouais.
C'est une écriture très précise. Bon, c'est quelque chose que je connais, c'est une technique d'écriture que j'ai pratiquée longtemps. L'idée, c'est d'aller à l'essentiel, d'enlever tout ce qui est superflu, puis tout ce qui pourrait ne pas être compris. J'ai l'habitude de dire, faut chasser l'implicite. Tout ce que les enfants ou les jeunes, même les ados, ne savent pas forcément dans tel ou tel mot. Alors évidemment, il en reste des mots qu'on n'explique pas, on pourrait pas. Le format est tellement petit, mais ça veut dire décortiquer, ça veut dire aller à l'essentiel. Et oui, c'est.
Et la façon dont vous les présentez d'ailleurs est très entre guillemets, mais c'est pas péjoratif, simpliste, c'est-à-dire que Greta Thunberg, pour ne parler d'elle d'ailleurs, qui est que d'elle qui est en couverture, oui. c'est la lanceuse de grève par exemple.
Oui.
Alors, comment vous avez réussi à simplifier chaque personnage comme ça? Il y a la dissidente, il y a le sauveur d'éléphants, je crois.
Oui, alors voilà, il y avait un nom. Alors ce nom-là, il vient pas forcément au début du portrait. Il y a de la recherche documentaire, enfin comme tout travail, recherche documentaire, croisement d'infos, de sources et puis rédaction, et puis où on se bat avec le format, et ça oblige à faire des choix dans ce qu'on veut raconter. Et puis le titre, à un moment, il s'impose. Ces titres, en tout cas ces définitions, ça s'impose ou ça s'impose pas. Et puis à la fin, on les a tous et on regarde aussi l'enchaînement. Enfin, c'est un travail qui se fait à différentes étapes.
Alors, Elisabeth Combre, parlons oui. par exemple de René Dumont, s'il vous plaît, parce que ça, c'est un Français que peut-être beaucoup d'entre nous ont oublié. Et pourtant, on peut considérer que c'était un des premiers grands candidats écologistes, en tout cas, et en particulier, ça a été vraiment le premier à l'élection présidentielle en oui. 1974. Il a fait entrer, lui, l'écologie en politique en France?
Il a participé à faire entrer l'écologie en politique, effectivement. Il a été la partie visible. Il a été le candidat. Donc l'élection de 1974, il a fait un score absolument...
1,5.
J'allais dire ridicule, hein, mais oui. 1,3.
Oui, c'est ça.
Voilà, avec des phrases comme l'écologie ou la mort. Donc on était dans quelque chose de très... Bon, il avait un art du discours, de la provocation dans les médias, la provocation qui donne discussion, hein, dans un sens efficace. Mais derrière lui, il y avait du monde qui se posait des questions sur, justement, qui avait envie d'amener un candidat écologiste. Parmi ces gens-là, il y avait Pierre Fournier, qui est aussi dans le livre, et qui est donc dessinateur, alors qui est mort jeune, mais qui a eu le temps de participer à ce lancement de l'écologie politique.
On va écouter la voix de René Dumont, justement, pour se souvenir un peu qui il était et de quelle façon il parlait de l'écologie.
L'écologie, qu'est-ce que c'est? C'est un mot créé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel, qui étudie les rapports entre les êtres vivants et les milieux où ils vivent. On nous accuse d'être des prophètes de malheur et d'annoncer l'apocalypse. Mais l'apocalypse, nous ne l'annonçons pas. Elle est là, parmi nous. Elle se trouve dans les nuages de pollution qui nous dominent, dans les eaux d'égout que sont devenues nos rivières, nos estuaires et nos littoraux marins. On pensait que ce serait le grenier de l'humanité de demain. Ce sont aujourd'hui nos poubelles.
Voilà la voix de René Dumont qui parlait avec des phrases choc, évidemment, Elisabeth Combre. Alors, il y a une autre personnalité qui est présente dans votre livre, c'est Vandana Shiva, que nous allons recevoir d'ailleurs dans 10 jours. Vous nous brossez son portrait très très rapidement.
Oui, alors Vandana Shiva, elle fait beaucoup de choses et moi j'ai voulu des choses fantastiques. Je me suis concentrée, il a fallu faire ça aussi dans ce livre, choisir un aspect de leur combat. Moi, ce que j'ai aimé dans son parcours, c'est quand elle est partie à pied à travers une région de l'Inde, pas toute l'Inde évidemment, mais pour aller recueillir des semences locales pour ce projet qu'elle a développé depuis de banque de graines cette éducation des paysans cette éducation, les paysans connaissent les semences locales, mais pour leur apprendre à résister aussi aux semences industrielles qu'on leur impose, donc certaines sont génétiquement modifiées, donc des OGM. Donc tout ce combat là, cette banque de graines qui donne des graines aux paysans qui les cultivent, ceux qui en ont besoin, ceux qui même ont du mal à les acheter, ils les cultivent et ensuite ils redonnent une partie de leur récolte, ils la partagent avec d'autres paysans. Il y a quelque chose de la résistance collective qui est très intéressant dans ce qu'elle fait. Et il y a d'autres choses, mais elle vous le dira directement.
Voilà, on aura l'occasion d'en reparler avec elle le 22 octobre, très exactement. Et dans les autres portraits de ce livre, Rachel Carson, évidemment, Le Printemps Silencieux, oui. Claude Laurius, grand glaciologue qu'on a également reçu de nombreuses fois, et Chico Mendes. Voilà, tous ces portraits, c'est très très bien fait. C'est pour faire connaissance avec ces militants qui ont fait beaucoup avancer, évidemment, la question écologique. Merci beaucoup en tout cas Elisabeth Combre. Ce
Merci
petit ouvrage formidable, tout en dessin, est paru donc chez Gallimard Jeunesse. Merci Camille Cronier.
À lundi, je vais dire à demain, mais non, à lundi.
Bon week-end.